Voilà, nous allons commencer donc notre sujet sur la tolérance. Comme vous le voyez, notre réflexion de ce matin sera marquée par notre actualité. J'avais dans le programme des listes et des vertus que je m'étais donné une liste sur laquelle figurait la tolérance quelque part, mais elle ne figurait pas sitôt, elle ne figurait pas immédiatement. Mais j'ai choisi quand même d'en parler aujourd'hui, après les jours terrifiants que nous avons vécus, et devant la monstruosité quand même de cette idéologie fanatique qui oppose les kalachnikovs aux crayons et aux feutres, qui a voulu faire taire par les fusils et par le meurtre des personnes qui pensent différemment, et qui l'exprime de façon peut-être irrévérencieuse. Nous avons été blessés aussi en notre humanité par les meurtres de Vincennes, par l'angoisse infligée à des hommes, des femmes, des enfants, pour l'unique raison qu'ils étaient juifs. Nous avons été blessés aussi, révoltés, devant le meurtre gratuit, délibéré des policiers, dont la seule mission était de protéger les populations, les personnes. Et je dirais, d'une certaine façon, nous avons été épouvantés non seulement par ces assassinats, par cette violence, mais aussi par ceux qui les a motivés. Le spectre de l'intolérance absolue est quand même quelque chose qui glace, qui fait peur. Et la valeur, la nécessité de la liberté de penser, la valeur de la liberté de pouvoir s'exprimer, de la liberté de croire, nous sont apparues vraiment avec une force totale. Une société où on ne peut pas exprimer son désaccord, où l'on ne peut pas se moquer de ce que l'on juge inacceptable, nous est apparu comme insupportable, comme inacceptable. Alors soyons honnêtes. Nous étions souvent en désaccord avec les libertaires de Charlie Hebdo, dont certaines valeurs morales étaient à l'opposé des nôtres, et qui ne s'étaient pas privés de caricaturer outrageusement la foi chrétienne. Et certainement que si nous avions à défendre la liberté, nous défendrions un usage plus respectueux de cette liberté. N'empêche que, à leur façon et avec leurs valeurs, ils défendaient probablement le tout dernier segment de la liberté d'expression, de la liberté totale d'expression, parce que c'était ça leur credo. Ils refusaient toute censure ou toute limite autre que celle qu'ils choisiraient eux. Ils ont tenu cette position malgré les menaces auxquelles ils se savaient exposés. Et je dirais qu'ils ont défendu certainement un des segments extrêmes de la liberté de pensée et d'expression. Mais ce segment extrême a d'une certaine façon valeur de test. Comme lorsqu'on tire un élastique pour tester jusqu'où il peut aller, quelle est sa résistance. Et je pense que ces hommes, ces femmes de Charlie Hebdo, c'est ce qu'ils faisaient par rapport à la liberté d'expression. Et refuser cette liberté, refuser cette expression, s'y opposer comme on s'y est opposé, s'attaquer à la liberté tout entière. Et c'est pourquoi on peut dire qu'ils ont payé le prix fort aussi pour notre liberté, même si nous l'exprimerions de manière différente. Ils ne sont pas les seuls à le faire, rappelons-le. Par exemple, les chrétiens persécutés sont aussi des martyrs de l'intolérance et des résistants de la liberté. S'ils cédaient, ce serait aussi une part de liberté qui céderait du terrain. Nous avons vengé le prophète, ont crié les assassins. Et nous avons tous été transis d'horreur devant cette phrase. Ça m'est resté. Est-ce qu'on défend une croyance, une religion, un prophète, une vérité, en assassinant ceux qui ne l'acceptent pas, en ne la reconnaissent pas, ou qui en critiquent les outrances? L'intolérance fanatique donc nous est apparue sous son visage hideux et abject. Il faut s'y opposer de toutes nos forces. Il faut faire front commun, car la liberté est notre bien commun. Mais nous devons veiller aussi à utiliser, à garder des moyens justes, appropriés. Nous devons travailler sur nos attitudes, Ne pas céder aux provocations, ne pas céder à la vengeance, ne pas céder aux amalgames. Être honnête, vouloir être honnête jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de chacun de nos jugements. Il nous faut savoir aussi aimer la vérité fine et ne pas tailler les choses à l'emporte-pièce, mais savoir dire aussi simplement là où nous ne sommes pas d'accord. L'intolérance fanatique doit être combattue, parce que tout le monde s'accorde à dire cela. Mais cela implique aussi que tout n'est pas tolérable. Il y a une limite au tolérable. Mais dire cela, cela pose des questions. Qui la fixe, cette limite à ce qui est tolérable? Et de quel droit? Comment une société qui clame l'importance de la tolérance peut-elle déclarer en même temps certains actes, certaines attitudes intolérables? C'est une autre question de notre situation. Maintenant, est-ce seulement l'intolérance fanatique qui doit être combattue? Ou est-ce toute forme d'intolérance? Cette question, si nous la posons, elle est assez redoutable, car elle nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes, cette fois-ci. C'est si facile de dire « il faut combattre l'intolérance fanatique », c'est-à-dire « l'intolérance, c'est eux ». L'intolérance, c'est l'islam, c'est le djihad, c'est la charia. C'est facile, c'est pratique d'avoir un repoussoir comme cela. Ça nous met d'emblée dans le bon camp. Intolérant, moi, jamais. Surtout pas comme eux. Sauf que, pour Charlie Hebdo et pour tant d'autres, toutes les religions sont par définition intolérantes. C'est ça ce qu'il disait. Tous les dogmatismes qui affirment qu'il y a une vérité sont jugés par principe intolérants. Car si on dit qu'il y a une vérité, on n'accepte pas que d'autres puissent avoir d'autres vérités. Tous ceux qui pensent qu'il y a des principes moraux qui s'imposent à tous sont jugés profondément intolérants, notamment par ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Lorsque de plus cette vérité s'affirme comme venant d'en haut, est valable pour tout homme parce qu'elle vient d'en haut, où est la tolérance possible, au sens profond du terme? Quelle place pour agir, pour penser différemment s'il y a une vérité qui vient d'en haut? Pour un athée, l'idée même d'une idée révélée d'en haut, qu'il devrait accepter, est une forme d'intolérance par rapport à sa vision de la liberté, où chacun doit pouvoir être libre de se déterminer lui-même. En définitive, ne serait pleinement tolérant que les gens qui pensent qu'il n'y a pas de vérité ou que la vérité n'est pas accessible et donc on peut accueillir la vérité de l'un, de l'autre, lui faire une place, lui reconnaître une pleine valeur au champ de au milieu de toutes les tentatives de vérité. J'ai ma vérité, tu as la tienne, chacun a la sienne, mais il n'y a pas de vérité. Et c'est ce dans quoi on voudrait nous faire entrer lorsqu'on parle de tolérance ou d'intolérance. Nous chantons « Christ est Seigneur, sa vérité règnera ». Nous le chantons dans l'espérance et dans la joie, mais pour certains, entendre cela, c'est entendre la parole la plus intolérante qui soit. « Sa vérité règnera ». Et ceux qui n'en veulent pas de cette vérité, et ceux qui ne la reconnaissent pas. Et nous avons besoin d'entendre cette réaction qui est opposée à ce que nous chantons de tout cœur, parce que ça nous questionne. Comment fonder la tolérance dans une perspective chrétienne? La tolérance est-elle seulement une vertu chrétienne? Lorsque l'on lit comme Paul qu'il faudrait amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Vous voyez que les questions ne sont pas aussi simples que cela. Je vous invite à lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. Moi, Paul, dit l'apôtre, je vous exhorte par la douceur et la bienveillance de Christ, moi qui suis humble en face de vous et qui de loin suis plein de hardiesse à votre égard. Je vous en prie que je n'ai pas une fois présent à montrer de la hardiesse, de l'assurance dont je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera à vous, sera complète. Jusqu'ici, notre lecture. Comment donc parler de la tolérance? Alors il nous faut procéder par étapes et avancer pas à pas. Ce que je vais vous dire doit une part en tout cas à André Comte Sponville dans son petit traité des grandes vertus. Donc j'ai été bien aidé par cet ouvrage, mais j'ai été aussi amené à prendre mes distances par rapport à lui, pour chercher un langage sur la tolérance en rapport avec nos convictions chrétiennes. Première question que l'on peut se poser, c'est quel est le domaine où s'applique la tolérance? Dans quel domaine s'applique la tolérance? Dans quel cercle, et avec quelles limites est-elle nécessaire et utile? Et à quel endroit aussi est-ce que la tolérance ne fonctionne plus, n'a plus lieu d'être d'une certaine façon? Et j'aimerais d'abord donc souligner une première limite de la tolérance qui est la limite de la vérité connue avec certitude. La tolérance ne concerne que les domaines où la vérité peut être discutée ou peut être contestée. Lorsque la vérité est clairement établie, la tolérance n'a plus de sens. Exemple. Si un comptable s'est trompé dans un calcul, et si l'on apporte la preuve de cette erreur, il est juste intolérable pour lui de vouloir persister dans cette erreur. Vous comprenez bien. Une fois que la démonstration est faite et qu'elle est établie, la vérité s'impose. Et tolérer l'erreur lorsque la vérité s'est manifestée, ce serait juste une autre erreur. Et ce serait une entorse à la vérité. Et donc, on a ici cette idée que la vérité manifestée, la vérité manifeste est une première limite à la tolérance. André Comte-Sponville fait une remarque assez intéressante et éclairante. Il dit, on parle assez souvent du droit à l'erreur, le droit à l'erreur. Mais il dit, le droit à l'erreur ne s'applique que avant qu'on ait mis en lumière une vérité. On a droit à l'erreur tant que l'on cherche, tant que l'on tâtonne, hein, tant qu'on essaye de trouver la vérité. Mais une fois que la vérité est établie, le droit à l'erreur ne fonctionne plus. Car il voudrait dire que l'on persévère dans l'erreur, justement, malgré cette vérité établie. Et cela voudrait dire être de mauvaise foi, d'une certaine façon, ce serait une faute que de l'accorder. On a donc ici une première limite lorsque l'on parle de la tolérance. Lorsque la vérité est connue avec certitude, parler de tolérance n'a pas de sens. Par exemple, aucun scientifique ne demanderait ou n'accepterait qu'on tolère ses erreurs s'il en a fait. Hein. C'est une question de rigueur. Par contre, aucun scientifique ne supporterait qu'on lui dicte ce qu'il doit penser. La liberté doit demeurer entière. L'esprit ne se plie que devant la vérité manifeste. Alors, une fois qu'on a posé cette limite, ça permet de mieux situer le domaine où fonctionne la tolérance. La tolérance fonctionne à propos des questions d'opinion. Une opinion, c'est une affirmation que l'on pose pour laquelle on peut avoir des raisons, hein, des arguments, mais qui restent malgré tout discutables. Je peux tenir à une opinion, je peux défendre mon opinion, je peux l'argumenter, Mais si quelqu'un peut en face autre chose, faire valoir autre chose, ce que j'aurais dit n'est qu'une opinion. Devant la démonstration mathématique, on s'incline, mais une opinion, ça se discute. Et c'est dans ce domaine de l'opinion où il doit y avoir place pour de la tolérance. Lorsque je dis, lorsque je pense, reste discutable, il me faut accepter cette réalité, que ce que je dis, ce que je pense est discutable, et faire preuve de tolérance envers d'autres. Je peux continuer à penser et affirmer ce que je crois vrai, mais je dois tenir compte du fait que d'autres ont le droit de penser autrement. Légitimement, la tolérance est ici une forme d'humilité, une forme d'honnêteté aussi. Et Paul nous invite à avoir cette sagesse de reconnaître que sur certains points, on peut avoir des pensées ou des logiques différentes. On peut avoir des manières différentes d'évaluer les choses. Par exemple, à propos des questions alimentaires qui se posaient aux chrétiens des premiers siècles, entre ceux d'origine juive, ceux d'origine païenne, Paul a conscience qu'il y avait des points de vue différents et qu'il y avait des opinions différentes. Et dans Romains 14, versets 1 à 5, voilà ce que nous lisons de sa part. Il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. » Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Vous voyez, ici, on a vraiment clairement une invitation à la tolérance. Accueillez, ne discutez pas les opinions. Et discuter, ça veut dire ici ferrailler, hein, se battre pour des questions qui ne sont que des opinions, se heurter. Et Paul propose une attitude d'accueil mutuel, de tolérance, d'acceptation que l'autre pense différemment que moi. Et la motivation de cette tolérance, c'est d'abord la nature de ce qui est en cause. Ce n'est qu'une opinion, hein, c'est-à-dire quelque chose qui se discute. Mais le but aussi de l'exhortation, c'est la paix, c'est la considération de l'autre et la reconnaissance que certaines convictions sont des affaires de choix personnels. Alors nous reviendrons un petit peu sur cette question de l'opinion, mais il faut reconnaître quand même ici une difficulté. C'est que souvent, ce qui pour l'un est une vérité est pour l'autre simplement une opinion. Par exemple, je suis convaincu que Jésus est ressuscité. C'est pour moi quelque chose d'attesté. Et il y a toute une série de faits qui convergent pour dire oui, on peut dire que Jésus est ressuscité. Bien des faits convergent dans les récits, c'est l'unique explication possible de l'existence de la surveillance du christianisme. Moi je fonde toute ma foi, toute ma vie sur cette certitude et sur ce qu'elle implique. Et pour moi c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose d'attesté, c'est une vérité. Mais je dois reconnaître que pour d'autres, ce que moi j'affirme comme une vérité, pour d'autres, c'est qu'une opinion. Les gens qui m'écoutent peuvent me dire, mais c'est toi qui penses comme ça. Moi, je ne pense pas comme cela. C'est discuté, ce n'est pas forcément respectable même, et certains peuvent avoir d'autres raisons qui font que non, ils ne peuvent pas accepter cela. Vous voyez, on a là quelque chose qui n'est pas toujours très facile à tenir. Pour moi, c'est une vérité, mais pour celui qui est en face de moi, c'est qu'une opinion. D'un côté, ça veut dire que je devrais défendre ma conviction, rendre témoignage, mais d'un autre, je dois aussi comprendre que l'autre puisse ne pas adhérer à ce que je dis et que l'autre puisse relativiser éventuellement ce que je dis parce qu'il a un point de vue différent. Et c'est ainsi qu'il faut développer douceur, respect, fermeté pour défendre ce que je crois, mais souplesse aussi pour comprendre que l'autre puisse éventuellement ne pas accepter ce que je dis. Et cette tolérance-là, elle n'est pas facile à pratiquer, et il est important quand même que nous apprenions à le faire. Et il faut bien nous dire quand même que Au moment où moi-même j'essaie de pratiquer cette exigence envers l'autre, envers mon interlocuteur, lui aussi doit pratiquer une exigence de tolérance envers moi pour accepter ce que moi je suis en train de dire. Vous voyez, on est là dans un dialogue qui n'est pas toujours très facile. Donc, premier cadre, la tolérance se comprend dans le cadre des opinions et lorsque la vérité reste discutable, lorsqu'elle n'est pas pleinement manifestée. Deuxième question, est-ce qu'il faut considérer la tolérance comme universelle ou est-ce qu'il y a une limite morale à la tolérance, par exemple? La réponse apparaît assez rapidement. C'est vrai que si la tolérance s'impose et de mise lorsqu'il s'agit d'opinions inoffensives, il y a la réalité incontournable du mal à laquelle il faut s'opposer. Lorsque le mal est en jeu, il ne faut pas tolérer, il faut s'opposer. Tolérer le mal, c'est s'en faire complice, c'est l'encourager, c'est l'approuver. Et c'est ainsi qu'il y a des réalités intolérables qui sont balisées par les grands principes moraux. Il faut être tolérant, oui, pour les opinions, mais il y a des endroits où il faut arrêter la tolérance. La tolérance envers l'injustice n'est pas une vertu, mais une faute. La tolérance envers le racisme n'est pas une vertu, c'est une faute. C'est oublier les victimes, c'est les abandonner à leur sort. Et on sait que malheureusement, bien des tolérances sont finalement le vernis de la lâcheté. On ne veut pas intervenir, alors on tolère, alors qu'il y a eu du mal qui a été commis. Alors, il y a ici, une fois qu'on a posé ce principe, de dire oui, il y a une légitimité à dire que certains principes moraux peuvent limiter la tolérance. Il y a une distinction qu'on peut creuser un petit peu, c'est faire la différence entre le mal qui me touche et le mal qui touche les autres. Je peux choisir de tolérer un mal que je subis. Une offense qui m'est faite à moi. Je peux choisir de la tolérer. Et tolérer prend alors un sens très fort. Si je tolère cette offense qui m'est faite, ça, et une valeur éthique pleine, ça veut dire que je renonce à la colère. Ça veut dire que je renonce à la vengeance. Que je renonce à faire valoir mon intérêt ou à rendre coup sur coup. Cette tolérance-là, par rapport au mal ou à l'injure, est une tolérance qui coûte, qui me coûte. Mais elle peut avoir une vraie valeur. Je reviens ici à Charlie Hebdo. Ils ont publié des caricatures contre la foi chrétienne que l'on peut juger offensantes. Et je dirais que le fait de ne pas surréagir à ces caricatures, le fait d'encaisser plutôt que de dégoupiller tout un arsenal de haine et de rancœur, tolérer ces pages, même là où elles me blessent, tolérer ces pages plutôt que de vouloir interdire ou supprimer le journal, ça c'est certainement une forme de tolérance noble. Ça a été l'attitude, me semble-t-il, de nombreux chrétiens en circonstance. Une autre possibilité dans ces cas-là, c'est de protester par des moyens légaux, en respectant strictement les décisions de justice. C'est une autre forme de tolérance noble. Je me sens agressé, je demande l'arbitrage de la justice, mais en respectant cette justice. C'est aussi une tolérance noble, plutôt que de se laisser aveugler par la haine et la vengeance. Et ça a été, me semble-t-il, l'attitude de nombreux musulmans par rapport aux caricatures de Mahomet. Plusieurs s'en sont remis à la justice. Jésus, me semble-t-il, a su avoir cette tolérance qui endosse le mal. Lorsqu'il était sur la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus n'a pas crié, « Père, venge-moi. » Jésus n'a pas crié, « Père, fais-moi justice. » C'est pas cela que Jésus a crié. Jésus, en disant « Père, pardonne-leur », a voulu préserver dans son cœur la capacité à aimer, la capacité à vouloir le bien malgré l'offense subie, malgré la souffrance endurée. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et en disant, Père, pardonne-leur, il déclare que ce qu'ils ont fait est un mal. Parce qu'on ne pardonne qu'une faute, on ne pardonne qu'une offense. Donc Jésus reconnaît que ce qu'ils lui ont fait est un mal, mais en même temps, en déclarant, en ajoutant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus laisse ouverte la question de l'intentionnalité de l'acte de celui qui a fait le mal. Et je crois que c'est très important cela. L'acte me fait mal, mais je ne veux pas mesurer cet acte simplement à ce que je ressens. Je veux aussi penser à ce qu'était l'intentionnalité de celui qui a commis l'acte. Que voulait-il faire? Jusqu'où pensait-il son acte? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il me semble que Jésus laisse ici la possibilité ouverte de comprendre l'autre dans son propre système de valeurs. Qu'a-t-il voulu faire? Qu'a-t-il compris à ce qu'il faisait? Et cela, c'est une tolérance forte lorsque l'on subit le mal. En tout cas, je trouve assez beau que cette magnifique que cette parole nous soit laissée. Elle barre la route à toute volonté de vengeance et de haine à l'égard de ceux qui s'opposent à notre foi. Elle barre toute idée de vengeance ou de haine à l'égard de ceux qui s'opposent à Jésus et qui le font peut-être de manière outrageuse. Jamais nous ne pourrons dire « nous avons vengé le Seigneur Jésus ». Jamais nous ne pourrons dire. Parce qu'il y aura cette attitude de Jésus qui lui a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous serions en contradiction totale avec lui si nous voulions venger Jésus pour les affronts qu'ils ont faits, comme on a voulu venger le prophète pour les affronts qui lui ont été faits. Il y a donc une valeur à tolérer. C'est donc une valeur que de tolérer en prenant sur moi-même une offense ou une injustice. Et cette tolérance-là, qui s'oppose à la haine en moi, est certainement une vertu chrétienne. Par contre, tolérer la souffrance des autres, tolérer l'injustice dont les autres sont victimes, là c'est une attitude qui moralement n'est pas acceptable. Et c'est de l'égoïsme, c'est de l'indifférence ou pire. Et il nous faut vraiment veiller à cela. Troisième limite à la tolérance, donc après la vérité manifestée, les principes moraux, troisième limite, on entend dire, et cela semble être une troisième limite, pas de tolérance pour les intolérants. Pas de tolérance pour les intolérants. Comment comprendre cela? Le sens de la formule, c'est de dire que la tolérance, tout comme la liberté, doivent être protégées. La tolérance doit être protégée. Il y a des ennemis à la tolérance, il y a des ennemis de la liberté. Ceux qui ont tué les dessinateurs de Charlie Hebdo et ceux qui les ont commandés sont de ces ennemis de la tolérance, de ces ennemis de la liberté. Leur culture est celle de l'intolérance, du refus que l'autre puisse être soi, qu'il puisse penser différemment, qu'il puisse contester l'ordre établi, l'ordre imposé à tous. Et la question qui se passe, c'est que faire lorsque l'on se trouve face à un tel projet qui veut supprimer tous ceux qui pensent différemment ou qui est prêt à le faire? Une société qui se veut tolérante, dans le sens où elle veut rester accueillante à la diversité, à la liberté de penser, une telle société se doit de se lever et de défendre cet espace de tolérance. Elle se doit vraiment de défendre la liberté de penser. Elle se doit de dénoncer tous ces ferments d'intolérance et de refus de l'autre là où ils se manifestent. Être tolérant à l'égard des promoteurs de l'intolérance, c'est se saborder soi-même. Et c'est pourquoi la tolérance doit se protéger contre l'intolérance. Et c'est pourquoi il est juste de dire pas de tolérance pour les intolérants. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est une des raisons pour lesquelles cela a du sens de se lever, de manifester, de faire bloc, de s'affirmer avec force face à l'intolérance. Maintenant, une fois qu'on a affirmé cela, il faut faire un pas de plus. Parce que la formule « pas de tolérance pour les intolérants » est une formule à double tranchant. Pour beaucoup, elle signifie que quand je suis en face de quelqu'un qui a été intolérant, du coup, pas de tolérance pour les intolérants, je peux donner libre cours à toute ma colère, à toute ma haine, parce qu'ils sont des intolérants. Et « pas de tolérance » signifie alors « pas d'égard, pas de respect, pas la moindre retenue ». Attention. Attention, parce que dans ce cas, l'intolérance risque bien de changer de camp et saisir celui qui s'en proclame lui-même l'ennemi en disant « pas d'intolérance pour les intolérants ». Et c'est le genre de dérive que l'on a vu, me semble-t-il, à Guantanamo, par exemple, avec les humiliations abjectes qui ont été infligées aux prisonniers que l'on considérait comme des terroristes intolérants. Pas de tolérance pour les intolérants ne signifie jamais se laisser aller à la haine, à la vengeance aveugle, au mépris de soi. Et Paul nous le dit dans le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens 10, les armes avec lesquelles nous combattons ne peuvent jamais être des armes charnelles, des armes mauvaises, marquées par le mal. Nous devons veiller vraiment là-dessus. Et donc il nous faut veiller. Cette formule est à double tranchant. De même, cette formule « pas de tolérance pour les intolérants » ne justifie pas qu'à l'égard des intolérants, on puisse se permettre des formules à la porte-pièce, des amalgames, le refus des nuances, les condamnations globales. Tu es intolérant, tu vas voir ce que tu vas récolter comme intolérance aussi. Si nous agissons comme cela, si nous parlons comme cela, nous basculons dans le camp des intolérants. Et il nous faut rester juste, il nous faut rester droit, autant que nous le pouvons, veiller à nos armes, à nos moyens. Dernière précision, pas de tolérance pour les intolérants ne veut pas dire forcément refuser aux intolérants le tout droit de s'exprimer ou tout droit de se manifester. Je crois qu'il faut dire que se protéger de l'intolérance ne veut pas forcément dire refuser tout droit de parole aux intolérants. On peut imaginer qu'à un moment donné, on se protège de l'intolérance en laissant une certaine liberté d'expression, mais en veillant à ce que cette liberté d'expression ne déborde pas. En veillant à ce que, par exemple, on réagisse à toutes les formules intolérantes qui sont dites. Qu'il y ait une réaction claire, nette, en face. Que si des propos sont donnés qui sont punissables par la loi, que l'on fasse intervenir la loi. Vous voyez donc qu'il y a possibilité de cadrer, à certains moments donnés, les personnes intolérantes sans forcément les museler totalement. Dans la mesure où une société est forte, est solide dans ses convictions, et où elle sait refuser et exprimer le refus de l'intolérance, elle pourra laisser un peu s'exprimer, même l'intolérance. Par contre, une société qui serait faible et ne serait pas prête à se lever serait mise en danger si elle laissait beaucoup plus l'intolérance se manifester. Donc voilà sur cette question les trois limites, me semble-t-il, qui donne le domaine de la tolérance. Lorsque la vérité est manifestée, on est en limite. La tolérance pour les opinions, oui. D'un autre côté, les limites morales à la tolérance. On ne peut pas tolérer les injustices, ce qui serait mal. Et troisièmement, autre limite, il s'agit de préserver la tolérance et donc pas de tolérance pour ceux qui attaquent l'intolérance. Maintenant, il nous faut aborder une autre réflexion qui touche au rapport entre vérité et tolérance. Et c'est mon deuxième volet. Et il faut reconnaître que ce couple vérité-tolérance, ce n'est pas un couple très facile à harmoniser. C'est souvent au nom de la vérité que l'on devient intolérant. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça doit nous faire réfléchir, parce que nous croyons qu'il y a une vérité. Nous disons avec Jésus, ta parole est la vérité. Nous confessons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous chantons, tu es Seigneur, ta vérité règnera. Comment, en proclamant la vérité, et la vérité qui est en Jésus, être et rester tolérant. Il faut reconnaître que dans l'histoire, la vérité avec un V majuscule a été souvent l'habillement du totalitarisme. C'est au nom de la vérité que le totalitarisme s'impose souvent. Comment est-ce qu'on distingue les dictatures du totalitarisme ? Les dictatures, une dictature s'impose par la force. J'ai le pouvoir, j'impose mon pouvoir par la force. Le totalitarisme a la force, bien sûr, mais il s'impose aussi par l'idéologie. Le totalitarisme s'impose parce qu'il incarne, parce qu'il dit incarner une certaine vérité. Tel parti, telle religion incarne la vérité. Et c'est au nom de la vérité qu'il s'impose à tous et que l'on exerce le pouvoir. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec l'idéologie nazie. Le nazisme avec son idéologie du folk, le peuple élu, le peuple supérieur. Parce qu'on avait décrété cette vérité qu'il y a un peuple supérieur, on a justifié tout le reste. Cette vérité-là a été le support de ce totalitarisme. On l'a vu avec l'idéologie communiste, où le parti incarne le sens de l'histoire. On l'a vu avec la chrétienté, où l'Église dominatrice impose sa loi à tous au nom de la vérité chrétienne avec un V majuscule. On le voit avec l'islam, pour qui la vérité révélée par le prophète fait considérer les autres comme mécréants, comme incrédules, avec un statut quand même inférieur. Ce n'est pas à eux de faire les lois, ce n'est pas à eux de déterminer le mode de vie, ce n'est pas à eux de donner les valeurs. Et voyez qu'il n'est pas facile de manier cette idée de vérité. Et c'est vrai que si la vérité est la même pour tous, tous doivent se soumettre également aux mêmes valeurs, aux mêmes règles, aux mêmes impératifs. Une même vérité pour tous, ça veut dire donc une même morale, une même politique, une même religion, même pour tous. C'est comme ça que l'on pense souvent. Si la vérité s'impose à tous, la morale s'impose à tous aussi. Et si l'on refuse de considérer qu'il n'y a que des vérités subjectives, que chacun a la sienne, on affirme alors que la vérité est valable pour tous et qu'elle ne dépend ni des cultures, ni de l'histoire, ni de l'appréciation de l'individu. Et la question qui se pose alors, c'est quelle place alors pour la tolérance ? Quelle place pour l'accueil de l'autre, pour l'accueil de sa différence ? Être tolérant, du coup, est-ce que ça ne va pas être trahir la vérité ? Si on croit vraiment qu'il y a une vérité qui s'impose à tous, puisqu'elle est une, puisqu'elle s'applique à tous. Et ce débat est très sérieux. Et ce débat nous concerne, nous, qui croyons en une vérité révélée, et qui croyons en une vérité révélée qui un jour manifestera sa plénitude. Il faut bien que nous nous rendions compte que cette notion de vérité, nous croyons vraiment qu'il y a une vérité, qu'elle est en Jésus, elle est ressentie par d'autres comme une vraie menace pour leur liberté. Nous pouvons d'ailleurs faire l'expérience nous-mêmes de cette même menace. Imaginons simplement que nous soyons au cœur d'une société musulmane, devant subir la charia et la loi qu'impose la religion musulmane. Nous refuserions ce serait une menace pour nous que de dire on nous impose cette vérité. Il ne faut donc pas nous étonner si certains même mettent dans le même sac toutes les religions et tous les dogmatismes. Ce n'est pas forcément de mauvaise foi que cela est fait, c'est le simple fait que l'on refuse de reconnaître comme vérité avec un V majuscule ce que nous présentons comme la vérité. Alors ça reste pour nous une vraie et grande question de dire comment nous qui croyons en une vérité qu'il nous a donnée en Jésus, comment justifier la tolérance ? La clé, me semble-t-il, est de prendre en compte le temps où nous vivons depuis la chute et en attendant la rédemption. Je m'explique. Nous avons dit que là où la vérité est manifeste, quand elle est évidente, la tolérance n'a plus lieu d'être. Hein, devant une démonstration achevée, la démonstration suffit, elle apaise, on reconnaît ce qui est évident, on ne cherche pas d'autres voies. Lorsque la Bible nous parle de la vérité de Dieu, qui s'est manifestée, on annonce vraiment cette manifestation comme une bonne nouvelle, comme une magnifique nouvelle. Et on dit, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance, il nous a fait connaître quelque chose de lui, quelque chose de ses desseins. Et ce qu'il nous a fait connaître en Jésus est quelque chose de fort, c'est quelque chose de sûr, parce que c'est porté par une vraie présence, par une vraie intervention dans notre histoire. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jean. Il dit, ce qui était dès le commencement, c'est dans 1 Jean chapitre 1, le tout début. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et nous vous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Comment résumer cela ? On a vu, dit Jean, et on en parle, c'est beau. Pour ceux qui ont vu le Christ vivant, pour ceux qui ont vu le Christ agissant, c'est juste pour ceux qui ont vu le Christ ressuscité, c'est juste magnifique. Il y a place pour une certitude tranquille, la joie d'avoir été rejoint par celui qui est la vérité. Aucune contrainte, c'est la force de l'évidence. C'est le bonheur de cette vérité simplement rayonnante. La lumière est venue dans les ténèbres, la vérité s'est manifestée, elle est venue à nous, on l'a vue, on l'a touchée, c'est beau, c'est magnifique. Ça, c'est le repère qui nous est donné, un témoignage précieux. Mais il faut bien nous rendre compte que cela ne nous donne pas la clé de tout. La Bible a soin de nous rappeler à cette humilité. Et en particulier, elle a soin de souligner que cette connaissance de la vérité que nous avons, parce que la vérité est venue vers nous en Jésus, elle n'est pas encore la pleine lumière sur tout. Nous savons que la vérité est venue en Jésus, mais nous n'avons pas la pleine lumière sur tout. Et c'est cela un premier aspect de notre condition présente. Dans 1 Corinthiens 13, verset 12, Paul dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors, lorsqu'il viendra, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et ça nous rappelle que si la vérité est venue vers nous, nous n'avons pas pour autant la clé de tout. Nous n'avons pas pour autant la clé de tout. Si nous connaissons quelque chose du projet de Dieu et de sa volonté, nous n'avons pas la connaissance de toute la vérité. Et nous ne pouvons pas prétendre connaître toute chose en vérité. Face à nos circonstances, nous nous interrogeons encore. Nous cherchons ce qui est juste, ce qui est vrai. Devant des choix, nous sommes en débat. Tout en sachant que Dieu a un plan pour le monde, nous ne possédons pas l'explication de bien des choses qui se passent, ni dans le monde, ni dans notre vie. La Bible nous dit que la lumière est venue vers nous, oui, mais elle nous rappelle à notre humilité. Et souvent, il nous est dit, tu ne sais pas. Et c'est un refrain que l'Ecclésiaste souvent nous dit, tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas cela, tu ne sais pas. Et Moïse, quant à lui, disait, les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des choses cachées, des choses qui ne nous sont pas accessibles, même si Dieu nous a donné des vrais repères dans ce qu'il nous a révélé. Ce qui veut dire que nous ne détenons pas la vérité, surtout la vérité avec un grand V, même si la vérité s'est fait connaître à nous. Il y a place pour la recherche de la vérité encore dans les différentes situations, dans tout ce que nous voyons. Il y a place surtout pour l'humilité face à la vérité. Nous ne sommes pas capables d'atteindre l'absolu. Aimer la vérité, c'est dans bien des domaines reconnaître que nous ne connaissons pas absolument, que nous sommes nous aussi et encore en recherche, que nous avons donc à recevoir des autres, de qui eux aussi cherchent, et que nous ne pouvons pas nous placer au-dessus des autres, mais à leur côté dans la recherche la réflexion, les tentatives. Et il y a là l'un des fondements de la tolérance. La tolérance, c'est une attitude, c'est une posture d'humilité. Je reconnais qu'avec les repères qui sont les miens, je cherche ce qui est vrai, je cherche ce qui est juste, ce qui est bon, mais d'autres, à côté de moi, cherchent aussi avec leurs repères à eux. Je dois garder cette humilité face à la vérité et ne pas absolutiser ce que je crois avoir compris. D'autres regards sont possibles, d'autres éclairages sont possibles. Montaigne disait, c'est mettre ses propres conjectures, c'est-à-dire ses propres idées personnelles, à un bien au prix que d'en faire cuire un homme tout vif. C'est mettre ses propres conjectures à bien au prix que d'en faire cuire un homme tout vif. La tolérance, donc, est une vertu d'humilité, d'abord. Une deuxième raison pour la tolérance est que nous ne sommes pas appelés à imposer la vérité, mais à en être témoins. La vérité qui s'impose est celle de la pleine évidence, de la pleine manifestation. Or, ce n'est pas comme cela que Dieu a manifesté sa vérité. Jésus-Christ, après sa résurrection, n'a pas fait une tournée triomphale dans le monde entier pour se présenter comme ressuscité. Jésus-Christ ne fait pas tous les jours sa petite tournée, son petit show, pour qu'on dise « Voyez, je suis là, je suis ressuscité ». Ça, ce serait l'évidence incontestable, d'une certaine façon. Le chemin choisi par Dieu est le chemin du témoignage. « Je suis venu rendre témoignage à la vérité », disait Jésus. Et Jean poursuit « Ce que nous avons vu, nous en rendons témoignage ». Et c'est ça la condition dans laquelle la vérité se déploie aujourd'hui. Alors cette catégorie du témoignage est importante. Un témoin sait ce qu'il a vu. Il n'est pas dans le flou, il n'est pas dans le relativisme. Mais un témoignage, ça ne s'impose pas. Un témoignage, cela se donne et cela se reçoit. Et recevoir le témoignage de quelqu'un, c'est croire finalement ce qu'il dit, c'est une confiance que l'on donne à la personne, c'est une adhésion que l'on choisit de faire à ce qu'il nous dit, mais c'est donné librement, après jugement, après réflexion. Et lorsque nous disons que la vérité s'est manifestée, nous sommes exactement dans cette posture du témoin. Le témoin n'impose pas sa parole, n'impose pas sa pensée. Il ne peut obliger personne à le croire. Le voudrait-il, ce serait un aveu de sa faiblesse. C'est la force de ce qu'il dit qui doit rejoindre et qui doit convaincre. Le témoin ne peut pas imposer sa vérité. Et la tolérance, me semble-t-il, trouve son fondement dans la façon dont Dieu a choisi de se manifester. Lorsque nous donnons foi aux paroles de Jésus, aux paroles de Dieu, lorsque nous donnons foi à la manifestation de Dieu en Jésus-Christ, nous acquérons une vraie certitude. Et la présence vivante du Seigneur en nous, elle a quelque chose qui conforte cette certitude. Mais cette certitude n'est pas une preuve qui s'impose à tous sans discussion. Elle ne devient certitude que pour celui qui cherche, qui entre dans la démarche, qui s'interroge lui-même et qui fait à son tour un pas d'acceptation. C'est la seule porte d'accès. Il faut une conviction, et cette conviction, elle engage chacun personnellement. Et on n'impose jamais une conviction à d'autres. Il faut que la personne fasse sa propre démarche. Et cela veut dire que je dois accepter que malgré la force de ma conviction, d'autres n'y entrent pas, ou d'autres considèrent que ce qui est tellement clair et tellement fort pour moi n'est qu'une opinion parmi d'autres. Et du point de vue sociétal, je ne peux pas me mettre au-dessus des autres. Je ne suis en effet qu'une opinion parmi d'autres de l'ensemble de la société. J'ai le droit de citer parmi les autres, mais j'ai l'exigence de vouloir la réciprocité. Si je veux pouvoir moi-même m'affirmer, je dois permettre à l'autre de s'affirmer dans sa différence. Et dans cette situation, mon rôle à moi est de témoigner, et de témoigner encore, mais de témoigner seulement. Je ne suis pas en mesure, je n'ai pas le droit d'imposer. Et si jamais j'étais en mesure d'imposer, par exemple, ce qui peut se passer lorsque une religion, lorsque la foi chrétienne devient majoritaire dans un peuple, si j'étais en mesure d'imposer ma position, je devrais veiller absolument à préserver l'espace pour qu'il reste la possibilité d'une adhésion de cœur et d'une adhésion choisie. Et c'est très important de dire, même si les chrétiens sont en situation majoritaire, il faut laisser l'espace aux autres pour venir à la foi, pour venir aux convictions chrétiennes, et non pas les imposer, tout en étant majoritaire. Car le propre de la foi, c'est le propre de la reconnaissance de la vérité. Il s'agit d'une démarche personnelle. La foi chrétienne valorise la personne, valorise la rencontre personnelle, valorise l'adhésion personnelle, valorise la liberté et la responsabilité de chaque personne. Et c'est pourquoi ce serait une contradiction et une trahison de la vérité que de vouloir imposer la vérité. Nous sommes témoins et nous devons favoriser l'adhésion responsable, l'adhésion personnelle, l'adhésion pleine et entière qui seule honore le Seigneur. Et c'est donc la deuxième raison qui justifie la tolérance. Troisième perspective, et je termine par là, la troisième perspective pour fonder la tolérance touche à la liberté. Alors cette question de la liberté est une question très très délicate. Les libertaires opposent la vérité et opposent justement la liberté à toute vérité avec un grand V. Bien des gens ressentent toute vérité à laquelle il faudrait se soumettre comme une atteinte à leur liberté, qui doit être et rester une façon de se déterminer soi-même. C'est comme ça que bien des personnes pensent. Ce n'est pas comme cela que nous voyons la liberté dans une perspective chrétienne. La liberté, ce n'est pas le fait de se déterminer soi-même de manière absolument indépendante et sans référer à qui que ce soit d'autre qu'à soi-même. La liberté, dans la perspective chrétienne, c'est la capacité d'agir spontanément et de mettre en œuvre de manière authentique les ressources de notre personne. Et si nous sommes faits pour Dieu, si nous sommes faits par Dieu et pour Dieu, nous pouvons exercer authentiquement notre liberté en cherchant à lui plaire, sans contrainte, par amour, dans la joie, dans la plénitude qu'apporte l'harmonie d'une relation. Et donc nous refusons l'idée qu'il y aurait une opposition de principe entre Dieu, et même entre un Dieu souverain, source de toute vérité avec un grand V, et la liberté humaine. Parce que la liberté, c'est la spontanéité avec laquelle je peux m'approcher de Dieu. Mais voilà ce qui se passe, c'est que la liberté humaine s'est révoltée. La liberté humaine a voulu se poser elle-même indépendamment de Dieu et face à Dieu. C'est ce qu'on appelle la chute dans le langage chrétien. Et c'est ce qui fait que désormais, la liberté de l'homme se vit souvent contre Dieu, se vit souvent en transgression plutôt qu'en relation harmonieuse. Comment est-ce que je sais que je suis libre si je peux transgresser? C'est ça pour certains le signe de la liberté. Qu'est-ce qui prouvera ma liberté? Ma capacité à transgresser, à refuser. Parce que la liberté s'est éprise d'elle-même, elle suit ses propres voies. Elle va suivre ses propres penchants qui vont si souvent dans un sens contraire à celui de la vérité de Dieu. Qu'est-ce qui permettra d'adhérer à Dieu pour quelqu'un qui est parti loin de Dieu? Il faut un changement d'orientation de la liberté. On pourrait dire, il faut une guérison de la liberté. Il faut un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de la manière de voir. Et c'est pourquoi bien des prières du Nouveau Testament demandent cette action dans le cœur des hommes, hein, que l'Esprit Saint éclaire votre intelligence, renouvelle votre intelligence pour que vous puissiez vraiment accepter ce que Dieu aime, vouloir ce que Dieu veut. Mais voilà la situation présente de l'humanité selon la Bible. La liberté a été donnée par Dieu, elle est voulue par Dieu, et elle est voulue par Dieu en vue d'une vraie, d'une relation harmonieuse. Mais désormais, la liberté humaine est blessée dans la réalité vraiment concrète de notre humanité. Si bien que nombre de défenseurs de la liberté peuvent devenir des ennemis de Dieu au nom de la liberté. C'est ça la situation d'aujourd'hui. Que fait le Seigneur en face de cette situation? L'une des solutions serait d'imposer sa loi pour tous, à tous, par un ou l'autre moyen. Mais nous savons que le chemin que nous trace l'Évangile, ce n'est pas celui-là. Nulle part il nous est dit qu'il faut imposer la loi de Dieu à tous et à toutes indifféremment. Le chemin que nous trace l'Évangile, le chemin voulu par Dieu, c'est celui du retour à Dieu des hommes et des femmes qu'il a créés. Et un retour qui nécessite une guérison de la liberté, une sortie de cette posture d'une liberté en opposition ou en refus à Dieu. Mais un retour à Dieu qui est celui de la liberté, c'est librement que l'on revient à Dieu et non pas sous la contrainte ou quoi que ce soit d'imposé. Et c'est très important de voir que le message du Nouveau Testament qui invite à la repentance et au retour à Dieu, ce message montre justement que Dieu valorise la liberté. Nulle part au Nouveau Testament, Dieu ne demande une loi, une charia qui s'imposerait comme ça à tous. On demande que chacun, on invite chacun à faire le mouvement vers Dieu. Dieu valorise la liberté. Et c'est pour cela que Dieu ne supprime pas la liberté, mais il veut la transformer. Et c'est un autre fondement de la tolérance. C'est un autre fondement de la tolérance. Nous voyons beaucoup de gens utiliser leur liberté autrement que Dieu souhaiterait voir cette liberté être utilisée. Et ils montrent par là combien la liberté humaine est blessée par le mal, par le péché. Mais dans la situation présente, cette liberté est la seule que nous ayons. C'est la seule liberté que nous ayons, cette liberté blessée. Et Dieu n'a pas voulu nous l'amputer. Et Dieu n'a pas voulu nous l'amputer. Et c'est pourquoi la tolérance a sa place, pleinement sa place, dans le monde blessé qui est le nôtre. Il faut bien sûr limiter les effets néfastes de la liberté lorsqu'elle dérive, lorsqu'elle fait le mal. Mais la liberté, même blessée par le péché, même s'orientant mal, reste un don que Dieu préserve. Dans la situation présente, nous n'avons pas d'autre liberté que cette liberté blessée. Et Dieu a voulu nous la laisser, cette liberté blessée. Il nous appartient donc de la valoriser, cette liberté. Il nous appartient donc de la défendre. Il nous appartient donc de montrer aussi comment se vit la liberté quand on est enfant de Dieu. Amen.